première question qui me venait à l'esprit, c'est, bon, j'imagine que tout ce retour d'expérience que vous avez amène à un certain nombre, je ne sais pas s'ils sont écrits, mais de guides, de bonnes pratiques sur la façon de conduire les chantiers, de gérer la biodiversité, et ainsi de suite. Est-ce qu'au-delà, il y aura un impact sur ce qu'on peut imaginer que sera l'autoroute dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Est-ce qu'il y a des réflexions à la matière? On a parlé ce matin de la route intelligente, mais je pense à ça, mais pas seulement. Est-ce que peut-être que pour attirer les poids lourds qui ne veulent pas venir, il faut une voie spéciale? Peut-être, je ne sais pas. Enfin, est-ce qu'il y a des réflexions qui sont menées au-delà simplement de guides de bonne pratique immédiats?
Alors déjà, là, moi je vous ai apporté quelques exemplaires de ce qu'on a appelé, nous, des carnets d'autoroute, les derniers qui sont sortis sur les carnets à faune, enfin, les passages à faune, donc ça je peux vous en donner quelques-uns. Oui, il y a des réflexions, mais à mon sens, qui sont très morcelées. Dans les différents milieux professionnels, des professionnels de la route, alors ça va être le bitume, ça va être l'eau, ça va être... Oui, il y a des réflexions, en gros, vers l'amélioration du cycle de vie des matériaux, le recyclage, les productions de CO2 lors de la construction, quand même, ça serait... Ça intéresse très fort les entreprises de TP, en public. Là-dessus, oui.
Pierre Calvin, notre hôte, si j'ose dire, en parlera demain soir en conclusion.
Ah oui, je crois que d'ailleurs, il distribue chez Palas, tous les groupes ont leur procédé. Un problème qui est évidemment sur la table, c'est que, en ce moment, ce n'est pas normalisé tout ça. Donc, à FH, on a nos propositions avec des calculs de CO2, Palas à les siennes, Google à les siennes. C'est pas normalisé. Donc en ce moment, la profession se rassemble plus ou moins bien, mais enfin bref, pour essayer de vis-à-vis de faire les propositions. Ça, c'est sur l'objet physique. Après, vous parliez aussi d'usage. Alors, moi, je pense que vis-à-vis de la biodiversité, je vous ai fait part d'un sentiment, là encore, de toute façon, ça va être les régions qui vont s'adresser aux différents maîtres d'ouvrage d'infrastructures linéaires pour dire voilà, moi j'ai mon schéma, c'est pas prescriptif. Il y aura une pression. J'ai un schéma, voilà, où les corridors biologiques doivent passer. On pourra dire non. On peut dire non. Ça sera peut-être politiquement, socialement, peut-être un peu difficile. Donc, mais moi, je pense, je vous dis franchement mon sentiment, si on veut, on peut le faire, et ça ne coûte pas très cher, et on peut même le valoriser. C'est-à-dire, en fait, se servir de ce qu'on fait pour, le transformer en musée ou en parcours touristique, ludique et intelligent et de compréhension. Et souvent, d'ailleurs, les contacts que j'ai avec les scientifiques, qu'ils sont ravis de travailler avec nous parce que certains veulent nous critiquer à tout point de vue. Une anecdote, un spécialiste des amphibiens disait, moi j'ai horreur de l'autoroute, je disais, bon ça, en tant que citoyen, vous avez tout à fait le droit, mais dites-moi uniquement si les amphibiens chez nous, ils crèvent plus qu'ailleurs. Bon. Et le travail a été fait très bien. Donc on peut avoir ce genre de, ayant même pas une série de tracts contre l'autoroute. Donc je veux dire, moi ça ne me gêne pas ça. Et sans ça, en général, on a des scientifiques qui cherchent en fait des terrains d'expérimentation. Parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que même quand on regarde les lieux Natura 2000, l'État n'a pas eu l'argent pour faire les inventaires. Donc sur un terrain donné, qu'on préserve, on ne sait même pas tout ce qu'il y a. Et c'est nous qu'on paye des naturalistes pour faire les inventaires. Ça, on avait fait un premier carnet d'autoroute là-dessus, parce qu'en fait, on a sauvegardé une partie de territoire parce qu'il y avait l'ossement royal, donc une fougère. Mais en fait, en travaillant plus le territoire, on a découvert des libellules, qui sont encore plus protégées. Bon. Donc voilà. Donc en général, les scientifiques. Moi, quand on leur offre des conditions de travail, on les rémunère, hein, mais après, ils font ce qu'ils veulent avec leurs neurones et leur savoir, ils sont contents. Donc, je pense que ça, on peut vraiment améliorer. Vous disiez une voie spécifique camion. Alors là, juste, je ne sais pas, il y a des gens, des économistes, enfin, un monsieur que j'aime bien, M. Crozet, qui est à Lyon, lui, il a même fait un futurib en disant que sur autoroute, à terme, il n'y aura que des camions.
Non, mais
je réponds brutalement à la question. Parce que...
L'idée 80 à l'heure et l'interdiction de doubler commence à et reprend et ça va faire une voie réservée aux camions de fait. Une dernière question. Alors, une demi. La dernière là.
Moi, je viens du département de la Loire et nous, on a un problème absolument énorme entre Saint-Étienne et Lyon. Et moi, ça m'intéresserait, par exemple, ce que vous avez dit sur la sécurité. Donc maintenant, vous êtes capable de mesurer les impacts positifs d'une infrastructure. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'anticiper cet impact et dire bah, si on fait l'infrastructure, voilà ce qu'on aura en moins comme accident, voilà ce qu'on aura en moins comme nuisance sur les autres voies qu'on utilise actuellement qui sont sursaturées, etc. Ça serait bien qu'on entende aussi des voies positives parce qu'on n'entend que les voies négatives. Comme vous dites, la peur de la nouvelle infrastructure, on n'entend que les voies négatives.
Dans les
Est-ce qu'on ne pourrait pas dans les débats
En général, ça dans les dossiers, je dirais,
d'information. Comment on calcule la rentabilité d'une infrastructure par comparaison avec une situation dite de référence sans cette infrastructure et entre autres postes, la sécurité, et on compte un million d'euros la nuit humaine. Bon, et donc, ce calcul, il est bien fait ou mal fait, j'en sais rien, mais ce calcul est fait. Alors, on en parle.
Si, alors moi, je peux vous donner un exemple qui n'est pas très loin de chez vous, mais vous savez qu'on a quand même une autoroute cul-de-sac. À 77, après Nevers et même Ménicourt, il n'y avait plus rien. Donc, je veux dire, on a travaillé de loin, parce que ce n'est pas notre job directement, avec la CCI de la Nièvre qui s'était mis d'accord avec la CCI de Moulins et la CCI de la troisième, je ne sais plus très bien d'où, mais pour faire un livre blanc, justement, où ils avaient analysé toutes les conséquences positives attendues d'un prolongement de l'autoroute. D'ailleurs, à la limite, que ce soit sur Balbigny ou sur la 71. Enfin, mais je veux dire, c'est un travail, ça a été largement fait, je ne sais plus, 500 000 dossiers qui ont été distribués dans l'Allier, la Nièvre, voilà.
Donc ça, c'est vrai que les opposants d'un projet sont toujours plus loquaces que les partisans. Surtout qu'ils sont souvent, comme je le disais, plus riverains que d'autres utilisateurs qui n'en souffrent moins. Dernière observation.
Oui, Jean-François Fougeras, EDF. Vous avez émaillé votre présentation, qui était très claire, mais d'un certain nombre de petites observations sur le changement de statut des opérateurs. Oui. Et ma question est suivante, et ça s'adresse peut-être aussi à vous, monsieur, c'est dans la perspective du développement des infrastructures sur le territoire national, le fait qu'il y ait un changement de propriété de certains opérateurs, est-ce que selon vous, ça modifie la logique de développement? Quels sont les impacts positifs ou négatifs que vous voyez dans cette articulation entre, d'une part, je dirais, les autorités publiques, que ce soit l'État, les régions, les collectivités locales, et les opérateurs qui peuvent avoir changé, c'est ce que je perçois dans le discours, changé de logique ou d'attitude, en tout cas dans leur dynamique économique et technique.
Je suis obligé, évidemment, à un certain devoir de réserve. Je ne sais pas, l'IEDAT, c'est l'université ou pas l'université. Je fais toujours la grande différence. Si c'est l'université, l'esprit critique peut souffler.
Pour vous mettre très à l'aise,
si c'est pas, pas l'université, devoir de réserve.
Bon. Pour vous mettre très à l'aise, je fais partie d'une entreprise qui a aussi basculé dans le CAC 40.
Oui, je sais.
Et ça change effectivement beaucoup les choses.
Je vous dirais, première chose, quand on parle du système autoroutier, en dehors de votre question, mais en amont, moi je dis, le premier changement, ça a été les règles de la concurrence, du marché postulé par l'Europe. Moi, je vous dis franchement, je suis pour l'Europe. Mais là, quand même, sur l'effet précis sur le réseau, quand on fait de l'adossement, on en a parlé, en fait, tout le monde, dans l'État, mais aussi localement, avait clairement conscience qu'on raisonnait à l'établissement d'un réseau. Quand on passe dans la concurrence, on raisonne section par section. Donc là, déjà, on n'est plus dans le réseau. Donc ça, déjà, c'est une grande différence par rapport à l'armature d'un réseau pour, dans le cas de l'aménagement des territoires, des ministères des territoires, ou ce que disait M. de Saville, l'homogénéité d'offres d'infrastructures, l'ensemble, etc. Ça, c'est une première chose. Si on fait de l'actualité plus immédiate, moi, ce que je suis obligé de constater, c'est que les Australiens Macquarie, en fait, plan de relance, ça ne les intéresse pas du tout de dépenser de l'argent maintenant. C'était l'enjeu, c'est pour nous, c'est 200 millions d'euros, avec même un amendement à la loi qui leur disait, entre 2032 et 2033, vous aurez un an de plus de concession. Ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne un fonds financier d'infrastructure comme Macquarie. Donc, je veux dire, ça, c'est objectivement, c'est que des faits. Ils ne veulent pas. Bon. Après, si je regarde, mais là, c'est un groupe comme EFH, c'est un groupe du BTP. Lui, il a à la fois acheté le réseau autoroutier à PRR, mais en même temps, il est très, très, très présent, et c'est sa stratégie d'être présent sur les PPP, les partenariats publics-privés, aussi sur le ferroviaire. Donc, il peut aussi, quand on dit PPP, c'est aussi des ressources personnelles qu'il faut pouvoir dégager. Donc, il peut aussi avoir, c'est un scénario, une restriction d'investissement sur le secteur autoroutier, aujourd'hui, et se donner des marges de manœuvre pour des PPP ailleurs. Donc, je vous dis ça pour que vous voyez que le jeu est quand même assez, assez ouvert. Et le fait que ça soit un secteur privé, moi je dis que ça va dépendre de la stratégie vis-à-vis de l'objet. Parce que soit on peut être uniquement rentier, donc là je fais allusion à ce que disait Michel Savis, c'est-à-dire la rente, effectivement, des péages, et puis on cherche à dépenser le moins possible, ou on peut aussi avoir ce que, par exemple, Jean-François Roverato, mon président actuel, disait en disant « je vais faire des offres de services aux clients, non pas les usagers, mais les clients de l'autoroute, et c'est à moi, chef d'entreprise, que de proposer des services nouveaux. » Et donc, il y a des réflexions aussi, mais qui peuvent choquer l'État, qui est quand même notre concédant, en disant « sur des aires de service, on peut très bien faire des activités de loisirs. » Moi, par exemple, personnellement, là, sur Beaune, c'est pas un dossier concret, j'essaye de voir si on ne pouvait pas installer quelques aquariums. Parce que juste à côté, il y a des élus de Beaune qui aménagent des terrains, des étangs de pêche ou des terrains boisés de nature. Quand je dis dans le fond, sur Beaune, où on a en fait une friche, on dirait les choses comme elles sont, puisqu'on a un archéodrome qui est fermé, on pourrait très bien avoir une activité aquarium. Mais dans ce cas-là, évidemment, ça veut dire qu'on peut avoir un espace ludique gratuit, et puis s'il y a un aquarium, ben, ça sera un peu payant. Et là, je veux dire, c'est un changement de mentalité de l'État, parce que c'est pas mal tout ça, c'est on travaille pour l'État. Donc il faut que l'État comprenne ou ne comprenne pas ou ne veuille pas avoir une diversification. Enfin, voilà des éléments de réponse.
Bien, merci. Je crois que Pascal Vigneret, puisqu'il nous rejoint, chargé de mission, ou peut-être conseiller même à la DIAC, pardonne-moi, oui. Pour nous parler des TGV, mais tu connais un peu les autoroutes, donc tu voulais rajouter un mot.
Je voulais juste compléter sur la réponse dessus. Bien sûr. En fait, il n'y a pas de changement de propriétaire.
Voilà.
Que,
c'est pas privatiser les autoroutes, c'est la concession qui est privatisée pour une durée fixe.
Société Phage et Collage ne sont pas propriétaires des autoroutes.
Absolument.
Il y a deux grands réseaux. Le réseau autoroutier est porté dans sa logique, et on verra avec le schéma national d'infrastructure de transport, par l'État, et n'est concédé qu'après son utilité publique. Donc, tout ce qui est au début, faut-il faire une autoroute ou pas, etc., est d'une logique strictement État, sans qu'il y ait une logique entrepreneuriale à ce niveau. Quant au ferroviaire, c'est un peu différent. Il y a en France un gestionnaire monopolistique qui est un établissement public de l'État, donc, qui est là évidemment bien géré là-dessus, et qui aussi, sous les orientations directes du gouvernement, est amené à pouvoir étudier et mettre en œuvre telle ou telle liaison qui est là-dessus.
Je suis bien d'accord, mais c'est simplement les conditions de gestion changent assez fortement.
Attention,
c'est autre chose. Je suis bien d'accord sur la propriété, mais je vous remercie d'apprécier.
Je regarde la pendule, cela étant, les concessionnaires privés assurent un service public avec un cahier des charges extrêmement contraignant sur la continuité du service, la tarification, etc. Ils ne peuvent pas fermer la mine d'oeil au prétexte que ce ne serait pas rentable, par exemple, etc. Mais ça laisse quand même bien prendre en compte ce que Jean-François Langlais nous a dit. Je fais une toute petite observation sur le fond, puis j'arrête. Quant aux effets structurants, tu as dit combien c'était complexe et beaucoup moins mécanique et direct que certains l'ont dit à grande échelle. C'était un facteur qui pouvait, si on s'en saisit, etc. En revanche, à l'échelle micro, vraiment locale, c'est structurateur du territoire. Tu nous avais dit, si l'autoroute passe au nord ou au sud d'une petite ville, l'urbanisation ira dans un sens ou dans l'autre. Hein. Et le desserrement que tu as dit s'opérera comme ci ou comme ça. Donc, là aussi, soyons multiscalaires. Autant la notion d'effet structurant, elle n'est pas très pertinente à large échelle. Alors, tu vois, macro-géographie, je ne sais pas comment dire. Par contre, très très localement, le choix du tracé, y compris très finement, peut être, et de l'implantation des entrées-sorties, notamment, peut être très, très avoir des conséquences d'organisation de l'espace parfaitement